Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais partager un message que j'ai intitulé « Trois combats que tu dois mener ». Trois combats que tu dois mener. Nous allons commencer par partager une lecture dans le livre de Josué. Josué 11, versets 20 à 23. Josué 11, 20 à 23. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Amen. Le livre de Josué, au chapitre 11 en particulier, nous raconte comment Josué a conduit le peuple à prendre possession du pays de Canaan qui était promis. Et ça s'est passé après la mort de Moïse. Moïse était destiné à conduire le peuple dans le pays de Canaan. Mais Moïse n'est jamais entré dans le pays de Canaan. Pourquoi ? Parce que Moïse avait désobéi. Dieu lui avait dit, tu pars le rocher. Moïse avait frappé deux fois le rocher. Moïse avait désobéi à Dieu. Et pour cette raison, Moïse n'est pas entré dans le pays de Canaan. Même si avant, il avait fait énormément de choses comme Dieu le lui avait demandé. Il avait sorti le pays d'Égypte. Il avait traversé le désert. Mais quand il avait fallu obéir, il n'avait pas obéi. Et c'est donc Josué qui est rentré dans Canaan avec le peuple. Et Josué avait été témoin de ce qui s'était passé avec Moïse. Et Josué connaissait les conséquences de la désobéissance. Josué savait ce que c'était que désobéir à Dieu. Et Josué avait vu ce qui s'était passé pour Moïse. Dieu a demandé à Moïse, puis à Josué, d'entrer dans Canaan, de combattre les nations étrangères et de les exterminer. Il y avait 7 nations étrangères. Les 7 nations se sont unies pour attaquer Israël. Tout ça, c'est dans le chapitre 11, vous pourrez le relire. Les sept nations se sont unies pour attaquer Israël. Et l'Éternel a livré les 7 nations qui étaient plus puissantes et plus nombreuses. L'Éternel a livré les 7 nations à Israël. Il les a livrées entre les mains de Josué. Josué a combattu avec le peuple. Josué a remporté tous les combats. Une fois que les combats ont été terminés, il a attaqué la ville de Hatsor, qui était la ville principale de ces nations. Il a également attaqué toutes les autres villes des rois et il a vaincu toutes ces villes. Il a exécuté tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et qui étaient devenus les siens. Il n'a rien négligé. Et Josué 11 nous dit qu'il s'est emparé de tout le pays. Mais à partir de là, Josué va commettre 3 erreurs. Une première erreur, il ne brûle pas les villes et il garde du butin et il garde du bétail. Alors que Dieu avait dit, tu dévoueras par interdit. Dévouer par interdit, c'est quoi ? C'est détruire la ville, mais c'est également tout laisser. Laisser les richesses, laisser les butins, laisser les trésors, laisser le bétail. Tout laisser. Une deuxième erreur. Josué va faire alliance avec le peuple des Héviens, qui habitaient principalement dans la ville de Gabaon. Et ce peuple va ruser, il va tromper Josué, et sans le savoir, Josué va nouer une alliance avec ce peuple des Héviens. Là aussi, c'était contraire à la volonté de Dieu qui avait interdit de nouer des alliances avec les peuples étrangers. Et enfin, une troisième erreur, Josué extermine les Anakim partout dans le pays et il dévoue leur ville par interdit. Et à la fin, alors que le pays est enfin en repos, que la guerre est terminée, on nous dit que Josué a laissé des Anakim à Gaza, à Gath et à Asdod. Et le chapitre 11 se termine ainsi, Josué, le donna en héritage à Israël. Josué donna le pays en héritage à Israël. Quel héritage ? Est-ce que c'était un bon héritage ? Est-ce que c'était l'héritage que Dieu voulait que son peuple reçoive ? Josué avait laissé des anakim. Ça nous pose aussi la question de ce que nous allons laisser comme héritage à la génération qui vient, de ce que nous allons nous laisser en héritage à nos enfants. Josué avait fait 99% du travail. Il a failli tout réaliser, tout ce que Dieu lui avait demandé, mais il restait 1%, un petit pourcent. Il n'a pas complètement obéi. Il a laissé 1%. Il a laissé des anakim à Gath, à Gaza et à Asdod, dans trois villes sur, je ne sais pas, mais des milliers et des milliers de villes dans Canaan et en Palestine. Et il a laissé trois villes, quelques anakim dans ces trois villes. Dieu ne regarde pas favorablement une vie qui lui obéit à 99%. Dieu ne regarde pas favorablement une vie qui lui obéit à 99%. Dieu veut des vies qui lui obéissent à 100%. S'il reste 1% de désobéissance, elle contamine tout le reste. Il existe des poissons qui sont des poissons, des poisons. Il existe des poissons aussi, hein. Mais il existe des poisons qui sont tellement puissants qu'avec une petite goutte de ce poison que vous diluez dans 1 litre ou 2 litres d'eau, ça suffit pour tuer un homme. C'est pareil avec le péché. 1% de péché dans votre vie peut contaminer tout le reste. Et le péché, il a une particularité, c'est qu'au début, il est tout petit. Il est tout petit. À la limite, il ne se voit même pas. On ne le voit même pas. Des gens sont contaminés par un péché et ceux qui sont autour d'eux ne s'en sont même pas rendus compte. Et puis, le péché, petit à petit, va grandir. Il va grandir et prendre de la place et plus en plus de place. Et puis un jour, il apparaît et on se rend compte qu'il y avait ce péché. Et c'est peut-être trop tard. Dieu avait demandé à Josué de faire disparaître tous les peuples ennemis de Canaan. Il ne lui avait pas demandé de faire alliance avec quelques-uns. Il ne lui avait pas demandé de laisser quelques-uns en vie. Josué, lui, avait laissé des anakim à Gaza, à Gath et à Asdod. Pourquoi ? On ne sait pas. La parole ne nous dit pas. Est-ce que c'était par négligence ? Est-ce que c'était par flemme ? Est-ce que c'était par oubli ? Est-ce que c'était par pitié ? On ne sait pas. Les anakim, c'était des descendants d'Anak. Anak, en hébreu, signifie le cou ou le collier. C'était une race de géants qui vivait dans le pays de Canaan. Et ils sont cités plusieurs fois dans l'Ancien Testament, notamment quand les 12 espions vont visiter Canaan et qu'ils vont en repérage. Et quand ils reviennent, ils disent « Nous avons vu les fils d'Anak, ils sont présents dans ce pays. » Et ils décrivent ce pays comme terrifiant. Ils se comparent même comme des sauterelles à côté de ces fils d'Anak. Et Josué a donc laissé des anakim à Gaza, à Gath et à Asdod. Et on nous dit que le pays était en paix. Le pays était en paix, mais en apparence seulement. En surface, le pays était en paix. Mais dans le pays, il y avait encore des anakim. Tout était calme. Mais le péché était encore là. Le péché peut être dans ta vie, sans que personne ne le voie, sans que personne ne s'en aperçoive. Et même si en apparence tu es en paix et que personne ne le voit, il est là. Dieu le voit. Toi, tu le vois. Ceux qui sont autour de toi ne le voient peut-être pas. Mais un jour, il va revenir. Un jour, il va apparaître. Un jour, il va sortir. Et quand il sortira, c'est pour te détruire. Te détruire toi, mais également détruire ceux qui sont autour de toi. Le péché de Josué, il a eu des conséquences pour les générations suivantes. Josué, il est mort. Il avait 110 ans. Et quand il est mort, on ne parlait plus des anakim qui restaient à Gaza, à Gath et à Asdod. On en a reparlé plus tard. Lui, il était mort. Mais les générations suivantes ont subi les conséquences. On peut le voir dans le livre des Juges, au chapitre 2, versets 10 et 11. Juges 2, 10 et 11. Le livre des Juges suit le livre de Josué. C'est la continuité. Qu'est-ce qu'on nous dit au début du livre des Juges ? Juges 2, 10 et 11. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Il suffit d'une génération, une seule génération, pour perdre le lien avec Dieu. Une seule génération. La génération précédente, elle était glorieuse. C'était la génération qui était rentrée dans Canaan, conduite par Josué. La génération suivante, elle servait les idoles. Qu'ont-ils reçu un héritage? Que leur a laissé la génération de Josué? C'est ça que nous devons à nos enfants. C'est ça que nous devons aux générations qui arrivent. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Une vie conforme à la parole de Dieu, à l'église, mais aussi à la maison, mais aussi au dehors. L'enseignement de la parole de Dieu, l'exemplarité, notre témoignage, tout ça nous le devons à nos enfants. Parfois nous pensons que notre péché ne nous regarde que nous. On le dit ça, hein? Oh mais laisse-moi, ça me regarde, c'est mon problème. On croit que le péché ne nous concerne que nous, mais non, notre péché ne nous concerne pas que nous. Il ne concerne pas que notre âme seule. Nous avons un devoir. Dieu nous a placés quelque part. Dieu nous a placés dans une famille. Dieu nous a placés dans une église. Dieu nous a placés dans un travail. Dieu nous a placés dans un voisinage, dans beaucoup d'endroits différents. Notre péché ne nous concerne pas que nous. Il peut avoir des conséquences autour de nous. Et le plan du diable, ce n'est pas de nous perdre nous. Le plan du diable, ce n'est pas de me perdre moi tout seul. C'est moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Il ne s'arrêtera pas à moi. Et les choix de Josué ont eu des conséquences pour les générations suivantes. À la fin du livre de Josué, on le disait, le pays est en paix. Mais quelle paix ? Que vaut une paix qui cache le péché ? Que vaut une paix qui gâche l'idole ? Que vaut une paix qui gâche la guerre ? Et donc Josué est mort. Et à la fin du livre de Josué, on ne parle plus de ces Anakim qu'il avait laissés à Gaza, à Gath et à Asdod. Que représentent ces trois villes, Gaza, Gath et Asdod? Gaza signifie le lieu fort. Le mot hébreu pour Gaza signifie le lieu fort, qui a un pouvoir d'attraction. Gaza attire. Ça représente la séduction, l'envie, la tentation. On peut le lire dans le livre des Juges, au chapitre 16, versets 1 et 2. Juges 16, 1 et 2. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici. » Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Voilà l'esprit de Gaza. Il attire l'œil. Samson avait été attiré. Il est parti pour Gaza et il voit une femme prostituée. Il est attiré. Samson est attiré à Gaza par la sensualité. La sensualité, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les sens. Nous avons cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Là, il voit. Il est attiré par la vue. Et il entre chez elle. L'esprit de Gaza, il est hospitalier, il t'ouvre la porte de sa maison, il te fait rentrer chez lui. Mais pendant que tu es là, pendant que tu es dans l'obscurité, pendant la nuit, pendant que Samson était là, qu'est-ce qui se passe autour? L'esprit de Gaza t'environne, il est dans l'obscurité, mais il est en embuscade. Il est là, il est dehors, il t'attend, il est tranquille. Le texte nous dit qu'il est tranquille pendant la nuit, il ne se manifeste pas. Mais au petit matin, quand tu ne t'y attends pas, parce que tu dors ou parce que tu viens juste de te réveiller. Ce n'est pas le moment où tu penses que tu vas être attaqué, mais c'est à ce moment-là qu'il va venir sur toi. Et il va venir sur toi, pourquoi? Ce que nous dit le texte, pour te tuer. On voit comment Gaza attire même un oint de Dieu. Samson avait une onction particulière, c'était un Naziréen. C'était un oint de Dieu. Même un oint de Dieu peut être attiré par un esprit de Gaza. Juge 16, 21, c'est un peu plus loin, Juge 16, 21 nous dit « Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, Samson. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. » Gaza, c'est là que Samson a été attiré, mais c'est aussi là que Samson a été fait prisonnier, qu'on lui a crevé les yeux et qu'il est mort. Là où il avait été attiré par la sensualité. Gaza, c'est comment Satan t'attire à lui par la séduction, par la sensualité. Il le fait pourquoi? Il le fait pour te piéger et il le fait pour te détruire. Au début, ces choses-là paraissent sympas. Ça a l'air bien. Ça nous attire et il semblerait que ça nous fasse du bien. Mais derrière, voilà ce qu'il y a. Pour Samson, Gaza, c'est l'héritage que Josué lui a laissé des années avant. Josué avait laissé des Anakim à Gaza. Et il y a eu des descendants. Et aujourd'hui, Samson rencontre les descendants. Gaza, c'est la sensualité. Gaza, Gath et Asdod. Gath signifie le pressoir de la vendange. C'était l'endroit où on mettait les raisins et on les foulait aux pieds, on les écrasait pour en extraire le jus. Écrasé, broyé. Gath représente la violence. On peut le lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4. 1 Samuel 17, verset 4. Vous connaissez par cœur. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan, c'est-à-dire environ 3 mètres. Goliath est un enfant de Gath. C'est un descendant des Anakim que Josué avait laissé à Gath. Et aujourd'hui, il se dresse devant l'armée d'Israël. Et il ne le fait pas n'importe comment. L'esprit de Gath, il cherche à nous intimider, à nous faire peur. Comment ? Par l'exubérance. 1 Samuel, chapitre 17, verset 8. Goliath dit, « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Il insulte, il se moque, il offense, il provoque, il blasphème, il injurie. Voilà ce qu'il fait. Il outrage. Il fait ça pourquoi ? Oui, pour semer la peur, semer la terreur, mais aussi pour nous attirer à lui. Il nous provoque pourquoi ? Pour que l'on rentre dans son jeu, dans sa provocation, et qu'on en arrive au combat, qu'on en arrive à la guerre, qu'on en arrive à la violence. Il nous tente. 1 Samuel, chapitre 17, verset 10, il dit « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Il inspire la peur. Au verset suivant, « Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Gath nous méprise et nous maudit. 1 Samuel, chapitre 17, verset 42-43. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il veut notre mort. Au verset 44, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Il ne fait pas semblant. Autant l'esprit de Gaza, il se cache dans la nuit et il va attendre le bon moment pour te sauter dessus et te tuer, autant lui, il affiche clairement la couleur d'entrée. Il t'insulte, il te provoque. Gath, c'est comment Satan, tous les jours, cherche à t'attirer sur le terrain de la violence, jusque dans ta maison, par des mots. La violence, ce n'est pas que des coups. La violence, c'est aussi des mots. C'est un quotidien, des provocations, des pulsions qui se réveillent en nous, dans plein de situations différentes, à la maison, au travail, dans la rue, partout. Mais là aussi, c'est un piège. Parce qu'une fois qu'il nous a attirés sur ce terrain-là, il a un objectif, c'est de nous détruire. Et pour David, Gath, c'est l'héritage que lui a laissé Josué des années et des années avant. Gath, c'est la violence. Et puis Asdod. Asdod signifie « endroit fortifié ». Asdod vient du mot hébreu « shadad » qui signifie « dépouillé, dévasté, ruiné ». Asdod représente le vol. Le vol. 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 et 2. 1 Samuel 5, 1 et 2. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Dagon, c'était l'idole des Philistins. Donc nous sommes des années et des années après Josué. Et en ce temps, il y avait un sacrificateur du nom d'Élie qui avait deux fils et tous les trois étaient corrompus. Et à cause de leur corruption, le peuple se détournait et le peuple désobéissait à Dieu. Et un jour, ils ont pris l'arche de l'Alliance et ils l'ont amenée sur le terrain de combat. Ils l'ont amenée sur le champ de bataille parce qu'il y avait une guerre contre les Philistins. Mais Dieu n'était pas avec eux. Dieu n'était plus avec eux. Ils ont perdu la bataille, les Philistins ont pris l'arche et ils l'ont transportée jusqu'à Asdod. Voilà ce qu'est l'esprit d'Asdod. Il vole l'arche. L'arche représentait quoi ? Elle représentait l'alliance entre Dieu et le peuple. Elle représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Asdod veut nous voler la présence de Dieu. Asdod veut nous détourner de notre relation avec Dieu. C'est le péché dans sa définition. L'objectif du péché, c'est nous séparer de Dieu. L'objectif du péché, c'est nous éloigner de Dieu. C'est nous couper de notre relation avec Dieu. C'est le sens profond du péché. Quelle que soit la forme qu'il prend, le péché a un objectif. Nous éloigner de Dieu, nous séparer de Dieu. Asdod aurait pu détruire l'arche. Ils avaient volé l'arche sur le champ de bataille. Ils auraient pu choisir de détruire l'arche pour humilier Israël. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'arche et ils l'ont mis dans leur temple, à côté de leur idole. Ils ne se montrent pas violents. Asdod ne se montre pas violent au point de détruire l'arche. Il est plus sournois que ça. Il prend l'arche, il la met dans son temple, à côté de son idole. Il veut nous distraire. Il veut que nous portions notre attention non plus sur l'arche, mais sur l'idole qui est juste à côté. Asdod, c'est comment Satan veut voler notre relation avec Dieu. C'est l'héritage qu'Israël avait reçu de Josué. Asdod, c'est l'héritage que lui avait laissé Josué, c'est-à-dire le vol. Asdod, c'est le vol. Asdod, c'est voler notre relation avec Dieu. Je termine ce message en rappelant trois réponses que Jésus a données à trois combats. On a dit que Dieu avait demandé à Moïse l'extermination totale de tous les peuples et de toutes les villes de Canaan. Comme Dieu te demande et me demande ce matin l'extermination de tous les péchés, de toutes les idoles qui sont dans ma vie, qui sont dans nos vies. C'est ce que nous demande Dieu encore ce matin. Dieu n'a aucune pitié pour ces choses-là. Dieu n'a pas de pitié pour le péché. Dieu n'a pas de pitié pour les idoles. Pourquoi moi ? Pourquoi vous ? Pourquoi nous aurions pitié ? Je ne sais pas si Josué a eu pitié. On ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi Josué a laissé les Anakim. Mais le fait est qu'il les a laissés. Peu importe les raisons pour lesquelles nous avons des péchés dans nos vies, s'ils sont encore là et que nous en avons conscience, nous devons les combattre. Parfois, on emploie le terme de péché mignon. Vous connaissez cette expression ? Ça, c'est pas biblique. Hein ? Vous ne la trouverez pas dans la Bible. Les péchés mignons. C'est la forme qu'on lui a donnée. C'est le nom qu'on lui a trouvé dans le monde pour l'excuser, pour l'accepter, pour le tolérer. Mais il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a que des péchés mortels. Il n'y a que des péchés mortels. Le péché au début est tout petit. Il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Il est tellement mignon qu'on veut lui faire des câlins. Mais un jour, il grandit, il grandit, il grandit. C'est comme un petit bébé lion. Au début, il est tout mignon. C'est tellement adorable. Un petit lion, tu le prends à la maison, tu le nourris, il grandit, un jour il te mange. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et même si tu as fait bien pendant des années, même si tu as servi Dieu pendant des années, même si tu as suivi Dieu pendant des années, avec assiduité, avec sincérité, et qu'aujourd'hui tu abandonnes, et tu dis, je suis fatigué, tout ça, je suis lassé, je vais penser un peu à moi. Maintenant, c'est le moment de penser un peu à moi. Je vais laisser un peu de côté tout ça, ça va, j'ai assez donné, c'est le moment de penser un peu à moi, de m'occuper un peu de moi. Abandonne cette idée. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu peux avoir servi Dieu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si tu lui tournes le dos et si tu lui désobéis, ça n'aura servi à rien du tout. À rien du tout. Même si pendant des années tu as fait ce bien, même si pendant des années tu as servi Dieu et que tu abandonnes, ça ne te donne pas le droit aujourd'hui de faire n'importe quoi. Ça ne te donne pas le droit aujourd'hui d'accepter le péché dans ta vie. Dieu attend toujours plus d'obéissance de notre part. Il n'attend pas 99% d'obéissance. Dieu attend 100% d'obéissance. Devant Dieu, nous ne sommes jamais assez purs. Devant Dieu, nous ne sommes jamais assez saints. Devant Dieu, nous ne sommes jamais assez bons. Devant Dieu, nous ne sommes jamais assez justes. Jamais assez. Jamais assez. Donc il n'est jamais temps de s'arrêter pour se reposer. Il n'est jamais temps de s'arrêter pour se dire « c'est bon maintenant, j'en ai assez fait, j'ai assez donné pour Dieu, je peux me reposer ». Non. Quand tu raisonnes comme ça, tu joues avec le péché, et tu joues avec ta vie, et tu joues avec la vie de ta famille. Alors même s'il reste des petites choses, des petits péchés mignons dans ta vie, va au bout. Ne laisse pas quelques petits péchés mignons, ne laisse pas quelques anakim comme à Gaza, à Gath ou à Asdod. Il n'y a aucun combat que nous ne puissions remporter. Même s'il y a des choses dans ta vie, tu te dis, mais jamais je pourrais abandonner ça. Jamais. Ce n'est pas possible. Sache qu'au contraire, c'est possible. Par la puissance de Dieu, c'est possible. Par la puissance de Dieu, tu peux relever tous les défis. Dieu ne te demandera jamais une chose trop grande pour ta foi. Jamais. Dieu te donnera des épreuves en rapport avec ta foi. Dieu a demandé à Jésus de monter sur la croix. C'était une épreuve à la dimension de Jésus. C'est le seul qui pouvait relever cette épreuve. C'est le seul qui pouvait remporter cette victoire. Jésus a été tenté dans le désert. On va en parler. 40 jours et 40 nuits. C'était une épreuve à la dimension de Jésus. C'était une épreuve à la dimension de Jésus. Il nous donnera des épreuves à la taille de notre foi. Dieu n'est pas faible pour nous donner des combats trop forts pour nous. Dieu n'est pas faible, Dieu est fort. Il nous donnera des combats, mais il nous donnera des combats à la dimension de notre foi. Et celui qui a de grandes épreuves peut se réjouir. Si tu as de grandes épreuves, tu peux te réjouir. Parce que plus ta foi est grande devant Dieu, plus il t'enverra des épreuves difficiles, plus il t'enverra des épreuves dures. David, il devait tuer Goliath. Il était tout petit, David. Il devait tuer Goliath. Abraham devait offrir Isaac, son fils, en sacrifice. Les disciples devaient prêcher l'évangile. Malgré la violence, malgré les coups, malgré les humiliations, malgré les lapidations, ils devaient le faire. Mais c'était en rapport avec leur foi. Si ta foi est grande, ton épreuve est grande, mais Dieu est avec toi. Donc, à propos de Jésus, vous savez qu'il a été conduit dans le désert par l'Esprit. Et là, il a été tenté par le diable. Il a été tenté 3 fois. Il a répondu 3 fois et il va remporter la victoire 3 fois. Amen, amen et amen. Et donc, il nous a montré comment faire. Tout d'abord, la première fois que le diable attaque, c'est commencé par la sensualité. Comme Gaza, la sensualité. 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Vous savez que vous êtes capable de le faire. Vous savez que vous pouvez le faire. Ça fait 40 jours que vous n'avez pas mangé. Il faut résister. Il faut résister à cette attaque par la sensualité, par la séduction. Et que va répondre Jésus ? Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. La parole ici, c'est le mot grec « rhéma ». Ce n'est pas la parole écrite, ce n'est pas la Bible, c'est le « rhéma ». C'est la révélation, c'est la voix de Dieu. C'est par ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est par la voix de Dieu que l'homme vivra aussi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi du « rhéma » de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous soutenir. Et Jésus nous dit quoi ici ? Il nous dit qu'en écoutant la voix de Dieu, en la cherchant, parce qu'il faut la chercher, et en l'écoutant, nous pouvons vaincre le combat contre la séduction. Nous pouvons vaincre le combat contre la tentation. C'est comme ça que Jésus a repoussé la séduction de Satan qui voulait lui faire transformer des pierres en pain par la voix de Dieu. Deuxièmement, la violence. Le diable va transporter... C'est ce que nous dit la Bible. Le diable va transporter Jésus sur le haut du temple. C'est la violence. Il voulait l'écraser. C'est Gath. Il le transporte sur le haut du temple. Le temple, à cette époque-là, reconstruit à l'époque d'Hérode, faisait une hauteur d'à peu près 50 mètres. Imaginez, 50 mètres. 50 mètres de hauteur. Et le diable lui dit, saute si tu es fils de Dieu. De toute façon, et il cite la parole, il lui dit, de toute façon, les anges vont venir. Il va envoyer ses anges Ils vont empêcher que tu t'écrases, ils vont même empêcher que ne soit-ce que ton pied heurte une pierre. Notez que le diable cite la parole de Dieu. Le diable peut venir et citer la parole de Dieu. Il peut nous tromper en citant la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il fait là avec Jésus. Mais Jésus connaît la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu puisque Jésus lui répond, Matthieu 4, 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus n'aurait jamais tenté Dieu. Mais Jésus accomplissait la volonté de Dieu. Pendant toute sa vie, Jésus a obéi à son Père. Il obéissait à Dieu. Et il est monté sur la croix par obéissance. Il aurait pu sauter. C'est vrai que Dieu aurait envoyé ses anges. Il ne serait pas mort. Mais Jésus devait mourir. Mais il ne devait pas mourir là. Jésus devait mourir sur la croix. Il devait faire plus que mourir sur la croix. Et ça, le diable ne l'avait même pas imaginé. Le diable pensait que Jésus pouvait mourir en sautant. Il pensait que Jésus pouvait mourir. Mais il ne savait pas que Jésus pouvait ressusciter. Jésus cite la parole de Dieu. Jésus s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'Écriture. Il y a la voix de Dieu et il y a l'Écriture. Troisièmement, le diable va le tenter par le vol. Le diable va tenter de voler à Jésus sa relation avec Dieu. C'est Asdod. C'est la troisième tentation. Le diable montre à Jésus, il amène en haut des montagnes, des collines, il lui montre la richesse. Il lui dit, regarde, tu vois toute cette richesse, tu vois ce monde entier, c'est pour toi. Il suffit que tu m'adores, il suffit que tu te tournes vers moi. Il suffit que je devienne ton idole et tout ça est à toi. Il veut le détourner de Dieu. Il veut prendre l'alliance et la déplacer à côté de l'idole pour que Jésus soit attiré par l'idole. C'est ça qu'il est en train de faire. Matthieu 4, 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus cite encore l'Écriture, le Logos. Il y a le Réma de Dieu, la voix de Dieu et le Logos, l'Écriture. Et que dit Jésus? Que nous dit Jésus? C'est que l'Écriture a une puissance infiniment plus grande que toute la puissance de l'ennemi, que toute la puissance de Satan. Et il a une autorité sur Satan par la parole de Dieu. Et Jésus lui-même dit, car c'est écrit, car il est écrit, à cause de la parole de Dieu, nous avons autorité sur le péché. À cause de la parole de Dieu dans nos vies, nous avons autorité sur le péché. Nous pouvons chasser le péché dans nos vies à cause de ce qui est écrit. Voilà les trois réponses données par Jésus à ces trois combats. Face au séducteur, écoutez la voix de Dieu. Face au séducteur, écoutez le Réma. Face au tentateur, cherchez la volonté de Dieu. Obéissez à Dieu en toutes circonstances. Et face au voleur de nos âmes, sondez l'Écriture. Quelqu'un ce matin peut-être se dit, mais moi, j'ai une épreuve trop grande dans ma vie. C'est bien tout ce que j'entends, mais moi, c'est trop dur. Et c'est vrai que nous avons des épreuves difficiles. Et c'est vrai que nous avons des épreuves qui nous paraissent parfois des montagnes et que nous n'y arriverons pas. Mais nous pouvons le faire. Tu peux le faire parce que Dieu est avec toi. David s'est présenté devant Goliath. David était tout petit. D'un point de vue charnel, c'était perdu d'avance. David ne pouvait pas battre Goliath. Mais il y avait une différence entre David et Goliath. C'est que David se reposait sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec David. Le spirituel est plus grand que le charnel. Le visible est plus petit que l'invisible. La puissance de l'Esprit de Dieu peut changer le cours des choses si tu t'appuies dessus. Tu es plus fort que tous tes combats si tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Par toi-même, tu ne peux pas remporter ces combats. Mais si tu t'appuies sur l'Esprit de Dieu, si tu t'appuies sur l'Esprit de Jésus, tu peux le faire. Peu importe ce que tu as reçu en héritage. Peut-être que aujourd'hui ta vie c'est compliqué parce qu'on t'a laissé cette vie-là. Tu as reçu quelque chose qui rend ta vie aujourd'hui compliquée. Mais on a vu que malgré l'héritage que Josué avait laissé à la génération suivante, même s'il y avait un Goliath à Gath, même s'il y avait des voleurs de l'arche à Asdod, même s'il y avait une prostituée à Gaza, Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a envoyé un Samson à Gaza. Dieu a envoyé un David à Gath. Et par la puissance de son Saint-Esprit, Dieu va sortir l'arche de l'alliance d'Asdod. Il va la ramener en Israël. Ce n'est jamais perdu. Josué avait laissé 3 villes, mais ce n'était pas fini. Peut-être qu'il y a encore 3 péchés dans ta vie. 3 choses que tu dois régler. 3 choses qui gouvernent ta vie. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. De toute façon, le péché ne peut pas remporter la victoire. Parce que la victoire, elle a été remportée par Jésus à la croix. C'est là que Jésus a remporté la victoire. Et le Fils de l'homme peut pardonner tous les péchés. Tous les péchés. C'est quoi notre vie de chrétien ? C'est marcher avec Jésus. C'est ça, notre vie de chrétien ? C'est marcher avec Jésus. C'est la repentance et la sanctification. Et la repentance et la sanctification. Et la repentance et la sanctification. Et tous les jours. Et tous les jours. Et tous les jours. Et tous les jours. Tu as le droit de te repentir. Et tu dois te repentir. Il ne faut pas avoir honte de se repentir. Le péché est dans nos vies. Le péché est dans nos vies. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser ces petits péchés, ce 1%, le laisser faire son œuvre et ne pas le combattre. Ça, nous n'avons pas le droit. Nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas le droit. Ça voudrait dire que Jésus est mort pour rien à la croix. Ça, nous n'avons pas le droit. Nous devons combattre. Nous repentir, demander pardon, et venir à la croix, et jour après jour, après jour, après jour. Et ne jamais s'arrêter. Et se sanctifier, c'est-à-dire vouloir progresser. On veut progresser, aller de progrès en progrès. On ne sera jamais parfait, mais on veut tendre à la perfection. On doit la rechercher, on le doit à Jésus qui est mort à la croix pour nous. Repentez-vous, repentez-vous. N'ayez pas honte de vous repentir. Si un jour, quelqu'un se réveille en enfer, et ça pourrait parce que l'enfer existe, c'est biblique, l'enfer existe, c'est une réalité. Un jour, quelqu'un se réveille en enfer, au milieu des flammes, et on sait qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous savez ça. Quelqu'un se réveille dans ces flammes-là. Et à ce moment-là, quelqu'un vient et lui dit, tu peux revenir sur terre maintenant? Je suis sûr que cette personne-là dit oui. Je reviens sur terre. Je demande pardon. Je me repens. Et je donne ma vie à Jésus. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Que Dieu vous bénisse abondamment.